Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison, pour ce magazine de nature et d'environnement sur France Inter. Donc c'est Eau de mon amour avec Clotilde Thomas et Cédric Lalanne aujourd'hui à la technique. Alors, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Saison sèche en juillet, saison des pluies au mois d'août. Autrement dit, ça a été un beau raccourci, vous savez, des climats tropicaux, va falloir s'y faire. Et pendant ce temps-là, côté vélo, eh bien, le Tour de France était tellement palpitant qu'on ne sait toujours pas qui l'a gagné. La CIA nous dit qu'il n'y avait aucun lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Eh bien, évidemment, les armes chimiques, c'est dans les pharmacies des coureurs qu'elles étaient. Rentrée des classes politiques, donc, les universités d'été ont recyclé leurs éléphants, enfin pardonnez-moi, leurs étudiants, Bac plus 40, ENA plus 30, moyenne d'âge 55-70, mais pas un seul retraité. Alors que voulez-vous? On choisit évidemment ses adhérents. Donc merci à que Johnny de nous donner envie, d'avoir envie. Merci pour ton militantisme écologique au volant d'une voiture qui consomme autant qu'à 30 tonnes. L'envie donc de consommer plus, de remplacer plus vite encore un produit par un autre, d'exister à travers des voitures puissantes qui vous assoient un homme et de...
Denis, oui, du calme, Jean-Baptiste, oui. On se calme, l'université du MEDEF, c'est fini, oui. Et là, c'est CO de mon amour.
D'accord, alors je reprends, heureux de vous retrouver avec le plaisir tout à fait intact avec toute notre équipe, à savoir Xavier Pestugia, notre réalisateur, Jean-Baptiste Audibert, sans oublier Jean-Christophe Pinaza, et comptez sur nous pour être vigilants et vous donner envie, à l'aube de ce siècle qui devra changer ses habitudes et faire avec la nature et non contre. CO de mon amour, c'est une émission, vous le savez, qui est ni optimiste ni pessimiste, mais simplement volontariste. Alors, si pour grimper dans votre maison bleue adossée à la colline, vous prenez plutôt le vélo que le 4x4, si la maîtresse a de plus en plus de mal à vous expliquer la différence entre un corbeau et un goéland mazouté, un thon rouge et un poisson pané, si à la récré vous rêvez de courses de Formule 1 turbinant au solaire, de Charles Leclerc chenillant à l'huile de colza, de pots de yaourt dont les ingrédients ne font pas 8000 km avant d'arriver dans votre estomac, si vous pensez tout bêtement que le progrès peut être autre chose que quantitatif, bref, si vous croyez que l'humanité n'est pas forcément la dernière de la classe, et si vous pensez pouvoir vivre sur la planète autrement, sans plonger dans le yaka faucon, en s'appuyant sur des avancées scientifiques, des initiatives et des changements de mentalité, alors oui, vous écouterez cette différence qui nous est chère sur France Inter, sans que le dogmatisme l'emporte sur la réflexion. Amis, que vous soyez sarkozyste vert, Ségolène Olat ou choyiste, bayrouiste pro-ours, LCR libéral, villiériste anti-OGM, voinettiste tendance l'environnement, ça m'intéresse aussi un peu chez les Verts, alors bienvenue, parce qu'on a du boulot pour vivre un peu mieux sur cette terre en arrêtant de la bousiller. C'est la rentrée, on revoit la copie, on continuera à semer des graines, même si nous ne devons pas forcément les voir fleurir, sinon on va se coucher tout de suite, et alors sous nos climats, vous savez, à 14h08 en direct, c'est pas le jour de la maison. Au menu de cette émission, un joli reportage dans la Creuse avec Gilles Clément, jardinier architecte, un homme du jardin en mouvement, écoutez-le.
Aujourd'hui, ce qui serait vraiment intelligent, c'est d'exploiter la technologie la plus poussée. Aujourd'hui, quand on imagine que dans une maison comme celle-ci, où il n'y a pas d'électricité, on peut communiquer à l'autre bout du monde par Internet, c'est fabuleux, parce que j'ai le fil du téléphone et que ça suffit. Bon, ben ça, c'est magnifique. Il n'y a pas d'énergie dépensée, là, ou presque pas. La merveille, c'est l'évolution justement dans les capacités à économiser, à vivre plus confortablement en exploitant des technologies modernes qui chez nous en France ne sont pas exploitées.
Gilles Clément a rencontré il y a quelques jours donc chez lui dans la Creuse, sur le lieu de son enfance, parce que c'est un homme d'Argenton-sur-Creuse. Donc une jolie balade avec lui, et puis il y aura l'actualité de l'environnement avec qui? Eh bien avec Nathalie Fontrelle. Et je ne vous en ai pas parlé, mais bien sûr, puisqu'il est là, la rentrée écologique avec qui? Avec Jean-Marie Pelt. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va se faire un petit bilan de l'été.
Oui.
On y est encore, mais quand même.
On a retenu que c'était la canicule, le bilan de l'été.
Oui, pour le mois de juillet, c'est sûr.
Elle était longue, pas trop trop forte. Elle était moins forte que la canicule de 2003, mais elle a duré longtemps. Alors après ça, il a fait pas beau au mois d'août. Alors on s'est dit, alors c'est peut-être pas le réchauffement climatique. Parce qu'on suit les choses au jour le jour et on regarde les choses chez nous. Mais on ne le regarde pas sur le plan planétaire.
Oui.
Et sur le plan planétaire, il y a effectivement un réchauffement climatique. Et j'en veux preuve le fait que j'ai mis les pieds à Fès, là, tout récemment, où il faisait 40, et que j'ai téléphoné avant-hier à Djerba, où il faisait 41. Oui. Alors ça, pour l'Afrique du Nord, c'est très très chaud, au mois d'août. Oui. Donc il fait chaud, et il fait chaud un peu partout. Alors, on hésite parfois à dire que ce sont forcément des preuves du réchauffement, mais maintenant, on finit par dire oui, oui, c'est des preuves du réchauffement, parce que le réchauffement s'accompagne d'épisodes météorologiques, disons, hard, canicules, inondations, sécheresses. À propos d'inondations, par exemple, j'ai lu un entrefilé de deux lignes dans le journal, j'ai essayé d'en savoir plus, j'ai trouvé nulle part rien de plus, qui avait eu 50 000 morts par inondation en Corée du Nord au mois de juillet.
C'est ça.
50 000, c'est effrayant.
C'est passé pratiquement inaperçu.
Passé donc, totalement inaperçu.
On peut dire que c'est la Corée du Nord aussi.
Parce que la Corée du Nord, ça n'existe pas. C'est un pays qui n'existe pas, sauf pour enquiquiner les Américains. Mais ça ne sert qu'à ça. C'est sa seule utilité. Mais comme il n'y a pas de presse libre, il n'y a donc pas d'information qui sort. Et c'est une sorte de grand trou noir.
Mais vous avez encore des gens qui, effectivement, nient ce réchauffement climatique. C'est-à-dire que vous avez, bon, du côté de l'administration américaine, on le sait, peut-être de moins en moins d'ailleurs quand même aujourd'hui. Le ministre du pétrole saoudien, c'est pareil. On vous dit, non, mais il nous faut encore des preuves, savoir si c'est l'homme qui est responsable ou non. Donc,
non, je crois que ce débat est derrière nous. Oui. J'ai rencontré tout récemment un des membres du bureau du Groupement international des spécialistes du climat, qui est donc l'organisme qui nous alerte. Et ce monsieur, qui est professeur à la renommée Université de Louvain, m'a dit, Jean-Marie, c'est encore pire que ce qu'on dit. J'ai dit, ah bon ?
Mais parce qu'il va y avoir un nouveau rapport du GIEC qui va sortir au printemps 2017.
Eh bien, il sera plus pessimiste.
Voilà, c'est ça.
Et donc, nous sommes devant un phénomène grave et irréversible, et tout ce que nous pouvons faire, c'est de limiter les dégâts. Nous ne pouvons pas revenir au climat de 1950, ça c'est fini, c'est trop tard. Il y a trop de gaz carbonique en l'air et de gaz à effet de serre. Mais nous pouvons essayer de limiter les dégâts avec un après-Kyoto qui serait, disons, musclé. Mais il faut pour cela que les pouvoirs politiques s'engagent à fond, et que aussi le monde économique s'engage à fond devant ce qui est une vraie priorité.
En repensant aux infrastructures aussi, parce que lorsque l'on construit des autoroutes, lorsque l'on construit des logements, etc., il y en a pour 100 ans. Donc si c'est mal isolé, il y en a pour 100 ans.
Voilà, et il faut vraiment tout faire autrement. Je crois sentir que dans le débat pour la présidentielle, grâce en partie à l'effort de Nicolas Hulot, on parlera de ça.
Oui, on en parlera,
et il faut absolument qu'on parle de ça. On ne va pas parler de nouveau que de la croissance.
Non.
Il faut qu'on parle de savoir quelle croissance on veut et si on veut un développement durable autrement que ce qu'on fait depuis maintenant 150 ans.
Et alors j'en profite pour dire aussi que nous aurons une séquence régulière, donc avant les élections, qui sera « Testons nos candidats. Nos candidats sont-ils écologiques ?» Hein. Donc on va en avoir un certain nombre aussi au micro de cette émission.
On mettra des notes.
Oui.
C'est la réaction du vieux professeur.
Oui.
On va mettre des notes.
Alors Jean-Marie, bon, sinon quoi d'autre?
Alors sinon quoi d'autre? Alors on a eu aussi le prix du pétrole qui s'est envolé.
Oui, c'est pas fini.
Alors c'est pas fini, mais ça on sait que nous arrivons peu à peu à du pétrole très cher et ensuite à plus de pétrole du tout. Ensuite, il y a eu un événement qui m'a frappé parce qu'il n'a occupé aussi que deux lignes dans la presse. On nous a dit que l'état de l'eau en France s'était détérioré.
Oui.
À la suite d'analyses qui ont été effectuées par un organisme très sérieux, qui est l'Institut français de l'environnement.
C'est un organisme parfaitement officiel, d'État, donc c'est l'IFEN, il faut leur rendre hommage parce qu'ils font vraiment de très belles études.
Très belles études, ils sont très précis. 96% des eaux superficielles contiennent maintenant des pesticides, c'est plus que l'évaluation précédente. 61% des nappes souterraines en contiennent aussi, c'est plus que ce qu'on avait dit jusqu'à présent, on pensait que c'était une sur deux, maintenant c'est 61%. 49%, c'est-à-dire la moitié, des eaux de surface sont de qualité moyenne ou mauvaise, donc il y a un recul, parce que, hélas, il y a une avancée des pesticides.
Alors d'ailleurs, l'INRA aussi a un petit peu fait sa mue, enfin, depuis un certain
temps,
en dénonçant donc aussi ces pesticides.
Oui.
Et puis, je crois qu'il y a un projet gouvernemental.
Oui, il y a un projet gouvernemental, très timide,
bah oui, quand même,
qui dit qu'il faudrait qu'on ne répande pas de pesticides à moins de 5 mètres des rivières et des étangs pour ne pas polluer directement les eaux de surface, qu'il faut veiller à, quand on fait des épandages, à ce qu'on ne fasse pas des mélanges, enfin, mais c'est très timide. Pourquoi est-ce timide? Alors, on va être clair. C'est timide parce qu'on n'arrive pas à avoir un bon dialogue...
avec le monde agricole dire,
fraternel, pourquoi pas. C'est quand même républicain, la fraternité, avec le monde agricole. Moi, j'ai été élevé dans une ferme petit enfant. Nos voisins sont des paysans. Nous sommes avec eux toujours. On achète les poules, les lapins, les œufs, etc. Nous sommes donc absolument dans le monde paysan. Et le monde paysan, il peut comprendre les choses. Mes voisins, quand j'ai parlé avec eux des pesticides il n'y a pas longtemps, on a eu une conversation, alors ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on les autorise s'ils sont dangereux? C'est extraordinaire, comme c'est bien dit.
Oui,
comme c'est bien dit.
Moi, j'ai entendu aussi des jeunes agriculteurs qui ont vraiment envie de changer les choses et qui vous disent, effectivement, il n'y a rien de plus qui est indiqué sur les sacs, donc si on nous les vend, c'est que ce n'est pas si mauvais que ça.
Voilà, c'est ça. Et moi, je crois que les paysans sont tout à fait capables de comprendre le problème. Il ne faut pas les prendre pour des gens totalement instrumentalisés par l'agrochimie, etc. Ce sont des gens responsables. Et il s'agit d'abord de leur santé à eux.
Tout à fait.
Parce que
les premières victimes, c'est eux.
Eh bien entendu, c'est eux les premières victimes. Et on connaît les impacts féminisants sur les chutes de spermatozoïdes, sur la stérilité masculine, des problèmes neurologiques, des problèmes digestifs. Enfin, il y a toute une gamme de problèmes qui sont liés du point de vue de la santé aux pesticides, et il faut qu'on diminue. Alors moi, la question que je pose, c'est celle-ci. Comment se fait-il qu'au Danemark, on a diminué de 50% en 10 ans, qu'en Suède, on a diminué de 60% en 7 ans, et que nous faisons semblant de croire que c'est impossible? C'est possible avec des pratiques agricoles qui seront un peu modifiées, sans que les rendements s'effondrent, et pour que les paysans se porte mieux.
Là, vous rejoignez Gilles Clément que l'on va écouter tout à l'heure. Hein. C'est tout à fait.
Voilà, il pense ça, Gilles.
Il pense ça. Ouais.
Voilà, nous sommes frères avec Gilles Clément. C'est le jardin planétaire. Nous sommes des gens de jardin.
Mais oui. Et puis Jean-Marie Pelt, aussi dans l'actualité, ça on n'en a pas beaucoup parlé, un incident nucléaire.
Oui, dont on n'a pratiquement pas parlé en France, parce que pas plus que le nuage de Tchernobyl, l'information n'a traversé les frontières, dont on a énormément parlé en Allemagne, qui a fait des grands titres en Allemagne, c'est que tout près de Stockholm, une centrale nucléaire a eu une panne d'électricité.
Donc en Suède.
En Suède. Et voilà-t-il pas que les générateurs qui doivent prendre le relais en cas de panne n'ont pas fonctionné. Et on a essayé de remettre à la main, par une manipulation directe, l'électricité en route. On y est parvenu après 23 minutes. Alors, au niveau des experts, on a dit que si ça avait duré 7 minutes de plus, et ils ont gambergé sur ces fameuses 7 minutes, nous aurions eu un deuxième Tchernobyl. Bon, alors évidemment, ça pose cette éternelle question, est-ce qu'on peut imaginer une technologie qui soit totalement sans risque? Mais la réponse, non, c'est le maître mot qu'on entend toujours.
Le risque zéro n'existe pas.
Voilà. Ça a failli très mal tourner. Et d'ailleurs, l'incident a été classé assez haut dans la liste de la gravité des accidents nucléaires.
On se dit au revoir. On a presque tout dit là pour l'été 2006.
Ben, c'était en gros ça, le bilan écologique de l'été 2006, oui.
Sinon
oui.
Vous allez bien, ça va?
Oui, plutôt pas mal.
Ça va pas mal. Hein. Bon, les Mirabelles, c'est une année à Mirabelles là chez vous en ce moment?
Il y a des mystères dans mon verger.
Oui.
La moitié des arbres n'ont pas une Mirabelle et l'autre moitié en ont plein. J'y comprends rien.
Bon.
C'est très important de le dire pour que les gens sachent que les professeurs savent pas tout.
Bon. Merci beaucoup Jean-Marie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir Denis, au revoir à tous.
Eh bien Jean-Marie, donc la semaine prochaine, vous l'avez bien compris, dans quelques instants, ça va être Gilles Clément, on va partir dans le département de la Creuse. Ce n'est pas Doc Gynéco, non, c'est Yann Tiersen et c'est très très bien.
Je nous vois tous assis devant, mais le front baissé, les épaules en dedans, avec dans les yeux toutes les larmes d'avant, et ça crève d'ennui devant. Je nous vois tout transi dedans, et le froid qui s'échappe et qu'on sent devant, immobile comme au lit dormant, et la vie qui s'éteint doucement. Thank you. je nous rêve tous debout devant, descendant dans la ville, marchant. Tu le prends, tu le vois dedans, dans le cœur, la colère des gens, la debout et la rade devant, là devant le vent d'ouest entrant. Tu le prends, tu le vois maintenant, dans le cœur, la colère des gens, là debout la mer devant, là devant la vague venant. Tu le prends, tu le cries dedans, dans le corps, la révolte des gens.
C'était la rade de Yann Tiersen, choisie par Karl Vasseur, notre programmateur sur France Inter. C'est Au de mon amour, ça continue. Et oui, et nous partons en balade.
Ce lieu d'un point de vue physique, c'est la fabrication du paysage ici, la balance des lumières s'est passée. Parce que comme je suis dans une clairière, je passe mon temps finalement à me dire qu'est-ce que je vais enlever. J'enlève beaucoup plus aujourd'hui que je ne plante, parce que c'est dans la lumière.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison, pour ce magazine de nature et d'environnement sur France Inter. Donc c'est Au de mon amour avec Clotilde Thomas et Cédric Lalanne aujourd'hui à la technique. Alors, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Saison sèche en juillet, saison des pluies au mois d'août. Autrement dit, ça a été un beau raccourci, vous savez, des climats tropicaux, va falloir s'y faire. Et pendant ce temps-là, côté vélo, eh bien, le Tour de France était tellement palpitant qu'on ne sait toujours pas qui l'a gagné. La CIA nous dit qu'il n'y avait aucun lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Eh bien, évidemment, les armes chimiques, c'est dans les pharmacies des coureurs qu'elles étaient. Rentrée des classes politiques, donc, les universités d'été ont recyclé leurs éléphants, enfin pardonnez-moi, leurs étudiants, Bac plus 40, ENA plus 30, moyenne d'âge 55-70, mais pas un seul retraité. Alors que voulez-vous? On choisit évidemment ses adhérents. Donc merci à que Johnny de nous donner envie, d'avoir envie. Merci pour ton militantisme écologique au volant d'une voiture qui consomme autant qu'à 30 tonnes. L'envie donc de consommer plus, de remplacer plus vite encore un produit par un autre, d'exister à travers des voitures puissantes qui vous assoient un homme et de
Denis, oui, du calme, Baptiste, oui. On se calme, l'université du MEDEF, c'est fini,
oui.
Et là, c'est Au de mon amour.
D'accord, alors je reprends, heureux de vous retrouver avec le plaisir tout à fait intact avec toute notre équipe, à savoir Xavier Pestugia, notre réalisateur, Jean-Baptiste Audibert, sans oublier Jean-Christophe Pinaza, et comptez sur nous pour être vigilants et vous donner envie, à l'aube de ce siècle qui devra changer ses habitudes et faire avec la nature et non contre. C'est Au de mon amour, c'est une émission, vous le savez, qui est ni optimiste ni pessimiste, mais simplement volontariste. Alors, si pour grimper dans votre maison bleue adossée à la colline, vous prenez plutôt le vélo que le 4x4, si la maîtresse a de plus en plus de mal à vous expliquer la différence entre un corbeau et un goéland mazouté, un thon rouge et un poisson pané, si à la récré vous rêvez de courses de Formule 1 turbinant au solaire, de Charles Leclerc chenillant à l'huile de colza, de pots de yaourt dont les ingrédients ne font pas 8000 km avant d'arriver dans votre estomac, si vous pensez tout bêtement que le progrès peut être autre chose que quantitatif, bref, si vous croyez que l'humanité n'est pas forcément la dernière de la classe, et si vous pensez pouvoir vivre sur la planète autrement, sans plonger dans le yaka faucon, en s'appuyant sur des avancées scientifiques, des initiatives et des changements de mentalité, alors oui, vous écouterez cette différence qui nous est chère sur France Inter, sans que le dogmatisme l'emporte sur la réflexion. Ami, que vous soyez sarkozyste vert, ségolène Olâtre ou choyiste, bayrouiste pro-ours, LCR libéral, villiériste anti-OGM, voinettiste tendance environnement, ça m'intéresse aussi un peu chez les verts, alors bienvenue, parce qu'on a du boulot pour vivre un peu mieux sur cette terre en arrêtant de la bousiller. C'est la rentrée, on revoit la copie, on continuera à semer des graines même si nous ne devons pas forcément les voir fleurir, sinon on va se coucher tout de suite, et alors sous nos climats, vous savez, à 14h08 en direct, c'est pas le jour de la maison. Au menu de cette émission, un joli reportage dans la Creuse avec Gilles Clément, jardinier architecte, un homme du jardin en mouvement, écoutez-le.
Aujourd'hui, ce qui serait vraiment intelligent, c'est d'exploiter la technologie la plus poussée. Oui. Aujourd'hui, quand on imagine que dans une maison comme celle-ci, où il n'y a pas d'électricité, on peut communiquer à l'autre bout du monde par Internet, c'est fabuleux, parce que j'ai le fil du téléphone et que ça suffit. Oui. Bon, ben ça, c'est magnifique. Il n'y a pas d'énergie dépensée, là, ou presque pas. La merveille, c'est l'évolution justement dans les capacités à économiser, à vivre plus confortablement en exploitant des technologies modernes qui chez nous en France ne sont pas exploitées.
Gilles Clément a rencontré il y a quelques jours donc chez lui dans la Creuse, sur le lieu de son enfance, parce que c'est un homme d'Argenton-sur-Creuse. Donc une jolie balade avec lui, et puis il y aura l'actualité de l'environnement avec qui ? Eh bien avec Nathalie Fontrelle. Et je ne vous en ai pas parlé, mais bien sûr, puisqu'il est là, la rentrée écologique avec qui ? Avec Jean-Marie Pelt. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va se faire un petit bilan de l'été.
Hein, oui.
On y est encore, mais quand même.
On a retenu que c'était la canicule, le bilan de l'été.
Oui, pour le mois de juillet, c'est sûr.
Elle était longue, pas trop forte. Elle était moins forte que la canicule de 2003, mais elle a duré longtemps. Alors après ça, il a fait pas beau au mois d'août. Oui. Alors on s'est dit, alors c'est peut-être pas le réchauffement climatique. Parce qu'on suit les choses au jour le jour et on regarde les choses chez nous. Mais on ne le regarde pas sur le plan planétaire.
Oui.
Et sur le plan planétaire, il y a effectivement un réchauffement climatique. Et j'en veux preuve le fait que j'ai mis les pieds à Fès, là, tout récemment, où il faisait 40, et que j'ai téléphoné avant-hier à Djerba, où il faisait 41. Oui. Alors ça, pour l'Afrique du Nord, c'est très très chaud, au mois d'août. Oui. Donc il fait chaud, et il fait chaud un peu partout. Alors, on hésite parfois à dire que ce sont forcément des preuves du réchauffement. Mais maintenant, on finit par dire oui, c'est des preuves du réchauffement, parce que le réchauffement s'accompagne d'épisodes météorologiques, disons, hard. Canicules, inondations, sécheresses. À propos d'inondations, par exemple, j'ai lu un entrefilé de deux lignes dans le journal, j'ai essayé d'en savoir plus, je n'ai trouvé nulle part rien de plus, qui avait eu 50 000 morts par inondation en Corée du Nord au mois de juillet.
C'est ça.
50 000, c'est effrayant.
C'est passé pratiquement inaperçu.
Totalement inaperçu.
On peut dire que c'est la Corée du Nord aussi.
Parce que la Corée du Nord, ça n'existe pas. C'est un pays qui n'existe pas, sauf pour enquiquiner les Américains. Mais ça ne sert qu'à ça. C'est sa seule utilité. Mais comme il n'y a pas de presse libre, il n'y a donc pas d'information qui sort. Et c'est une sorte de grand trou noir.
Mais vous avez encore des gens qui, effectivement, nient ce réchauffement climatique. C'est-à-dire que vous avez, bon, du côté de l'administration américaine, on le sait, peut-être de moins en moins d'ailleurs quand même aujourd'hui. Le ministre du pétrole saoudien, c'est pareil. On vous dit, non, mais il nous faut encore des preuves, savoir si c'est l'homme qui est responsable ou non. Donc,
non, je crois que ce débat est derrière nous.
Oui.
J'ai rencontré tout récemment un des membres du bureau du groupement international des spécialistes du climat, qui est donc l'organisme qui nous alerte. Et ce monsieur, qui est professeur à la renommée université de Louvain, m'a dit, Jean-Marie, c'est encore pire que ce qu'on dit. J'ai dit, ah bon ?
Mais parce qu'il va y avoir un nouveau rapport du GIEC qui va sortir
au printemps
2017.
Eh bien, il sera 2007. Plus pessimiste.
Voilà, c'est ça.
Et donc, nous sommes devant un phénomène grave et irréversible, et tout ce que nous pouvons faire, c'est de limiter les dégâts. Nous ne pouvons pas revenir au climat de 1950, ça c'est fini, c'est trop tard. Il y a trop de gaz carbonique en l'air et de gaz à effet de serre. Mais nous pouvons essayer de limiter les dégâts avec un après-Kyoto qui serait, disons, musclé. Mais il faut pour cela que les pouvoirs politiques s'engagent à fond, et que aussi le monde économique s'engage à fond devant ce qui est une vraie priorité.
En repensant aux infrastructures aussi, parce que lorsque l'on construit des autoroutes, lorsque l'on construit des logements, etc., il y en a pour 100 ans. Donc si c'est mal isolé, il y en a pour 100 ans.
Voilà, et il faut vraiment tout faire autrement. Je crois sentir que dans le débat pour la présidentielle, grâce en partie à l'effort de Nicolas Hulot, on parlera de ça.
Oui, on en
et
parlera,
il faut
oui.
absolument qu'on parle de ça. On ne va pas parler de nouveau que de la croissance.
Non.
Il faut qu'on parle de savoir quelle croissance on veut et si on veut un développement durable autrement que ce qu'on fait depuis maintenant 150 ans.
Et alors j'en profite pour dire aussi que nous aurons une séquence régulière, donc avant les élections, qui sera « Testons nos candidats. Nos candidats sont-ils écologiques hein ?» Donc on va en avoir un certain nombre aussi au micro de cette émission.
On mettra des notes.
Oui.
C'est la réaction du vieux professeur.
Oui.
On va mettre des notes.
Alors Jean-Marie, bon, sinon quoi d'autre?
Alors sinon quoi d'autre? Alors on a eu aussi le prix du pétrole qui s'est envolé.
Oui, c'est pas fini.
Alors c'est pas fini, mais ça on sait que nous arrivons peu à peu à du pétrole très cher et ensuite à plus de pétrole du tout. Ensuite, il y a eu un événement qui m'a frappé parce qu'il n'a occupé aussi que deux lignes dans la presse. On nous a dit que l'état de l'eau en France s'était détérioré à la suite d'analyses qui ont été effectuées par un organisme très sérieux, qui est l'Institut français de l'environnement.
Les chiffres parfaitement officiels,
officiel.
D'État, donc c'est l'IFEN, il faut leur rendre hommage parce qu'ils font vraiment de très belles études.
Très belles études, ils sont très précis. 96% des eaux superficielles contiennent maintenant des pesticides, c'est plus que l'évaluation précédente. 61% des nappes souterraines en contiennent aussi, c'est plus que ce qu'on avait dit jusqu'à présent. On pensait que c'était une sur deux, maintenant c'est 61%. 49%, c'est-à-dire la moitié des eaux de surface, sont de qualité moyenne ou mauvaise. Donc il y a un recul, parce que, hélas, il y a une avancée des pesticides.
Alors d'ailleurs, l'INRA aussi a un petit peu fait sa mue, enfin, depuis un certain temps,
en
dénonçant donc aussi ces pesticides.
Oui.
Et puis, je crois qu'il y a un projet gouvernemental.
Oui, il y a un projet gouvernemental. Très timide.
Bah oui, quand même.
Qui dit qu'il faudrait qu'on ne répande pas de pesticides à moins de 5 mètres des rivières et des étangs pour ne pas polluer directement les eaux de surface, qu'il faut veiller à, quand on fait des épandages, à ce qu'on ne fasse pas des mélanges. Enfin, mais c'est très timide. Pourquoi est-ce timide? Alors, on va être clair. C'est timide parce qu'on n'arrive pas avoir un bon dialogue
avec le monde agricole,
fraternel, pourquoi pas, c'est quand même républicain la fraternité avec le monde agricole. Moi, j'ai été élevé dans une ferme petit enfant, nos voisins sont des paysans, nous sommes avec eux toujours, on achète les poules, les lapins, les œufs, etc. Nous sommes donc absolument dans le monde paysan, et le monde paysan, il peut comprendre les choses. Mes voisins, quand j'ai parlé avec eux des pesticides il n'y a pas longtemps, on a eu une conversation, alors ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on les autorise s'ils sont dangereux? C'est extraordinaire.
Bien sûr.
Comme c'est bien dit.
Oui,
comme c'est bien dit.
Moi, j'ai entendu aussi des jeunes agriculteurs qui ont vraiment envie de changer les choses et qui vous disent, effectivement, il n'y a rien de plus qui est indiqué sur les sacs, donc si on nous les vend, c'est que ce n'est pas si mauvais que ça.
Voilà, c'est ça. Et moi, je crois que les paysans sont tout à fait capables de comprendre le problème. Il ne faut pas les prendre pour des gens totalement instrumentalisés par l'agrochimie, etc. Ce sont des gens responsables. Et il s'agit d'abord de leur santé à eux.
Tout à fait.
Parce que
les premières victimes, c'est eux.
Et bien entendu, c'est eux les premières victimes. Et on connaît les impacts féminisants sur les chutes de spermatozoïdes, sur la stérilité masculine, des problèmes neurologiques, des problèmes digestifs. Enfin, il y a toute une gamme de problèmes qui sont liés du point de vue de la santé aux pesticides, et il faut qu'on diminue. Alors moi, la question que je pose, c'est celle-ci. Comment se fait-il qu'au Danemark, on a diminué de 50% en 10 ans, qu'en Suède, on a diminué de 60% en 7 ans, et que nous faisons semblant de croire que c'est impossible? C'est possible avec des pratiques agricoles qui seront un peu modifiées, sans que les rendements s'effondrent, et pour que les paysans se porte mieux.
Là, vous rejoignez Gilles Clément que l'on va écouter tout à l'heure. Hein. C'est tout à fait.
Voilà, et il pense ça, Gilles.
Il pense ça.
Voilà, nous sommes frères avec Gilles Clément. C'est le jardin planétaire. Nous sommes des gens de jardin.
Mais oui. Et puis Jean-Marie Pelt, aussi dans l'actualité, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, un incident nucléaire.
Oui, dont on n'a pratiquement pas parlé en France, parce que pas plus que le nuage de Tchernobyl, l'information n'a traversé les frontières. Dont on a énormément parlé en Allemagne, qui a fait des grands titres en Allemagne, c'est que tout près de Stockholm, une centrale nucléaire a eu une panne d'électricité.
Donc en Suède.
En Suède. Et voilà-t-il pas que les générateurs qui doivent prendre le relais en cas de panne n'ont pas fonctionné. Et on a essayé de remettre à la main, par une manipulation directe, l'électricité en route. On y est parvenu après 23 minutes. Alors, au niveau des experts, on a dit que si ça avait duré 7 minutes de plus, et ils ont gambergé sur ces fameuses 7 minutes, nous aurions eu un deuxième Tchernobyl. Bon, alors évidemment, ça pose cette éternelle question, est-ce qu'on peut imaginer une technologie qui soit totalement sans risque? Mais la réponse, non, c'est le maître mot qu'on entend toujours.
Le risque zéro n'existe pas.
Voilà. Oui. Ça a failli très mal tourner, et d'ailleurs l'incident a été classé assez haut dans la liste de la gravité des accidents nucléaires.
On se dit au revoir, on a presque tout dit là pour l'été 2006.
Ben c'était en gros ça, le bilan écologique de l'été 2006, oui.
Sinon
oui.
Vous allez bien, ça va.
Oui, plutôt pas mal.
Ça va pas mal. Hein. Bon, les Mirabelles, c'est une année à Mirabelle là chez vous en ce moment.
Il y a des mystères dans mon verger. Oui. La moitié des arbres n'ont pas une Mirabelle et l'autre moitié en ont plein. J'y comprends rien. Bon. C'est très important de le dire pour que les gens sachent que les professeurs savent pas tout.
Bon. Merci beaucoup Jean-Marie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir Denis, au revoir à tous.
Eh bien Jean-Marie, donc la semaine prochaine, vous l'avez bien compris, dans quelques instants, ça va être Gilles Clément, on va partir dans le département de la Creuse. Ce n'est pas Doc Gynéco, non, c'est Yann Tiersen et c'est très très bien.
Je nous vois tous assis devant, mais le front baissé, les épaules en dedans, avec dans les yeux toutes les larmes d'avant, et ça crève d'ennui devant. Je nous vois toutes transies dedans, et le froid qui s'échappe et qu'on sent devant, immobile comme au lit dormant, et la vie qui s'éteint doucement.
C'était la rade de Yann Tiersen, choisie par Karl Vasseur, notre programmateur sur France Inter. C'est Haut de mon amour, ça continue. Et oui, et nous partons en balade.
Ce lieu d'un point de vue physique, c'est la fabrication du paysage ici, la balance des lumières s'est passée. Parce que comme je suis dans une clairière, je passe mon temps finalement à me dire qu'est-ce que je vais enlever. J'enlève beaucoup plus aujourd'hui que je ne plante. Parce que c'est dans la lumière que se trouve la diversité et la richesse de notre diversité sous nos climats. Mm-hmm. Sous les tropiques, c'est plutôt dans les arbres, mais là, chez nous, non. Et donc, je me dis, voilà, ce chêne, celui-ci, qu'est-ce que je vais faire pour que cette clairière, qui autrefois était une petite friche, ouais, ne se referme pas.
Eh oui, de belles lumières, de beaux nuages, d'ailleurs que Gilles Clément a raconté dans un beau livre hein, scientifico-poétique qui s'appelle « Le nuage » chez Bayard. Mais, nous sommes là, dans la Creuse, à la limite de la Languedoc et de la Langue d'Oïle, avec ce lieu qui s'appelle donc la marche, c'est-à-dire la véritable marche physique entre le Massif Central et le Val-de-Loire. Et c'est donc là qu'est né Gilles Clément, à Argenton-sur-Creuse. Sa maison est posée un petit peu plus loin, dans une vallée, entre Crozon et Argenton. Sur un versant chaud, vous avez les bâtiments et puis le potager. Vous avez des frondaisons en face. Le sol, c'est plutôt un sol assez pauvre, hein, c'est une arène granitique. Et Gilles Clément se pose toujours les mêmes questions, comment faire le plus possible avec le moins possible. Ça a toujours été, et c'est toujours la ligne directrice, la force des travaux de Gilles Clément. Donc je vous le rappelle, qui est cet architecte paysagiste, écrivain, il enseigne à l'école du paysage, et puis c'est aussi l'auteur de la théorie du jardin planétaire, du jardin en mouvement. Donc il m'a accueilli récemment au mois d'août, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment du produit frais que je vous propose. Mais bien sûr, c'est pas du congelé, c'est tourné à la main, sans additifs ni colorants. Donc je vais vous prendre plutôt par l'oreille, balade dans l'intime de Gilles Clément, dans ce terrain accidenté qui glisse vers la Creuse qui est transformée là dans un lac, et on va suivre le parcours. Et puis le bonheur, c'est que c'est un lieu où vous n'avez pas de tondeuse et pas de soufflante à feuilles. Le rêve.
Là, on marche sur une herbe en ce moment qui est jaune. Hein. Ouais. C'est du paillasson, c'est parfait, c'est le moment du repos de l'herbe. Il faut surtout, dans un pays comme ici, et pourtant on n'est pas dans le sud, hein, éviter d'avoir du gazon. Il y a des choses comme ça, tu vois bien qu'on arrose stupidement, où on dépense des quantités d'eau. Aujourd'hui, on est obligé au contraire de la récupérer. Là, je suis en train de...
Ah, il y a un petit bassin, là.
Il y a un petit bassin qui est dans la terrasse, mais le trop-plein de ce bassin, qui est quand même de dimension modeste, s'en va, et jusqu'à présent, il était un peu perdu dans le sol, qui est très poreux. Bon, je me dis, maintenant, c'est vraiment urgent de récupérer l'eau. Donc, profitant du fait que j'enlève un bambou, et ça fait un gros trou, et je vais refaire un deuxième bassin à cet endroit-là.
Vous aviez un bambou très envahissant.
C'était un bambou magnifique. Oui. Qui pendant 2-3 ans est resté calme. Mais là, depuis 2 ans, il prend des proportions complètement phénoménales et probablement que le climat lui convient aussi plus. Alors c'est devenu, comme il est très près de la maison, un problème. Et cette année, il m'a fait 40 turions d'un seul coup.
Oui, donc c'était vous ou lui, quoi.
En gros, c'était ça. Donc l'enlève, ce qui fait un gros chantier. Ouais. Même obligé de démonter un escalier puisqu'il s'attaquait à la maison, quoi.
Et donc, à sa place, il y a un petit bassin à côté de l'escalier.
J'en ai d'autres, des bassins. J'en ai un ici, au milieu du petit potager, qui récupère l'eau du toit d'un autre petit bâtiment. Celui-ci, il est petit, il fait 4 mètres cubes d'eau.
Oui, mais je veux dire que si chacun s'y met, récupère ses petites dimensions, ça fait quand même de sacrées économies au bout du compte. Et aujourd'hui, se dire qu'on n'a plus tellement le choix, on le dit, on le répète régulièrement dans cette émission. Quand on voit votre maison, d'ailleurs, elle a été construite avec les matériaux du pays. Il n'y a pas eu des grands transports, des allers-retours en camion pour charrier les matériaux.
Ah oui, je réfléchissais à cette question justement, que pourrait être le coût écologique de cette maison, en dehors du fait que bon, c'est moi qui l'ai construite et du coup, bon, d'un point de vue de son coût réel, comme ça, de ce que moi j'ai dépensé à l'époque, c'était vraiment effectivement rien. Ouais. J'ai donc dû acheter des matériaux, par exemple les bardeaux. C'est du bardeau de châtaignier qui couvre la toiture ici. Et il est fabriqué avec les châtaigniers du coin, et ça ne vient pas du bout du monde. Les pierres sont des pierres récupérées sur le terrain, c'est du granit. Oui. Tous les matériaux sont vraiment du coin.
Et l'isolation, vous l'avez jouée avec une circulation d'air entre les pierres d'un côté et puis une autre étanchéité de l'autre.
Oui, il y a les pierres, de l'air, et à l'intérieur de la maison, un mur de briques creuses. Alors ça, la brique, elle est fabriquée, je ne sais où. Ouais. Donc tout ça reste très raisonnable. Pour le toit, c'est pareil, il y a une couche d'air. J'avais au départ utilisé de la laine de verre pour renforcer l'isolation. Je me dis que ça suffit de toute façon, l'air ici, du moment qu'il est emprisonné. et qu'il, mais les animaux parviennent dedans, oui. Hein, y a rien à faire. Hein. Alors ça finit par être une maison nichoir, dans laquelle vivent Afflelou et...
Oui.
Et Optique 2000, ce sont mes loirs.
Ce sont vos loirs, bien sûr, loirs, oui, mais qui ont des belles lunettes.
Très belles lunettes. Il y a Édouard et Édouarda, puis maintenant Édouarda s'est trouvé un mari.
Comment vont-ils? Ah ben ça va.
Ils vont bien, oui, oui. Ce sont des couleuvres d'environ presque 1,80 m, 2 m. C'est la grande couleuvre, la zaménis, la couleuvre verte et jaune.
Mais qui est inoffensive, il faut le dire.
Comme toutes les couleuvres. Hein. De temps en temps, il y a des cibelles, mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est la fouine.
Ah oui.
Cibelle.
Cibelle, bien sûr.
Elle fait énormément de rafles.
Et la nuit, si possible.
La nuit. Les loirs, c'est plutôt 4 heures du matin et le soir un tout petit peu. Mais décibels, c'est toute la nuit.
Oui, donc c'est animé chez vous. Quoi.
Très animé. Bon, il y a les pipistrelles qui nichent dans le linteau de la porte. Enfin, voilà. Donc c'est une maison nichoire.
On appelle une maison en mouvement, ce qui va très bien avec votre jardin, effectivement, en mouvement, parce que c'est ça aussi. C'est donc ici, dans la vallée, que vous avez, entre guillemets, expérimenté un peu cette idée de jardin en mouvement, Gilles Clément.
J'ai donc découvert ce principe en travaillant le jardin ici, c'est-à-dire en essayant de faire quelque chose qui n'utilise pas de machine. Il n'y a aucun produit, aucun pesticide, vraiment jamais, de façon à préserver une grande diversité, en particulier entomologique, qui est un maillon clé dans cette histoire, parce que ça commande tout ce qui se trouve en amont et en aval. Les insectes sont vraiment importants à étudier.
Lorsque nous marchons là, par exemple, on rappelle que sous 30 cm de sol, il y a des millions de bêtes qui sont en train de travailler, qui vont des bactéries à des insectes plus importants.
Ces animaux-là qui sont dans le sol sont régulés par les raoules. Les raoules, c'est les taupes.
Ah, oui, bien sûr. Raoul la taupe.
Raoul la taupe. Et ça régule un peu cette population d'animaux qui sont souterrains et qui, eux, mangent les racines et les plantes, alors que les taupes sont carnivores exclusivement.
Alors là, on est repéré par les oiseaux qui se sentent très très bien. Et puis on est en train d'emprunter donc un chemin qui descend, parce qu'il faut imaginer donc un... C'est pas un petit vallon qui mousse de rayons, mais enfin on est quand même pas loin de cela. On a du lierre. Et puis on va descendre vers la Creuse. Et puis il y a cette rivière, qui est la rivière de votre enfance, mais aussi de votre présent. Par où on passe?
Alors,
là
on va d'abord passer par le champ, et où je fais apparaître des espèces qui sont de sol acide et pauvres.
Ouais.
Notamment des millepertuis, des sensons, des choses assez parfois banales. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande diversité entomologique qui s'est installée et qui est vraiment bio-indicatrice d'un équilibre général. Par exemple, je viens de lire récemment que le Thyria jacobae, qui est un petit papillon qu'on appelle la goutte de sang, était plutôt en voie de disparition. Ici, elle est très présente.
Oui, donc elle a retrouvé le gîte et le couvert en quelque sorte.
Oui, oui, c'est ça. Et le comptage qui est demandé aujourd'hui par le Muséum d'Histoire Naturelle sur les insectes, et notamment les papillons, c'est important. D'abord, papillons, on les voit. Donc n'importe qui peut les repérer et en faire un comptage. D'autres insectes sont associés à ça. Mm-hmm. Donc si on les voit, ça veut dire qu'un équilibre général est rétabli.
Là, on sort donc de votre forêt et on arrive effectivement sur ce champ avec d'abord le ciel bleu et puis donc le champ de graminées.
Alors ce champ, ben, il est blond et rôti, on peut dire, par la canicule de juillet, le soleil d'août. Il y a encore un petit peu d'espèces qui sont feuillues vertes, comme les saponaires, qui sont maintenant en fin de floraison. Donc ça représente une vraie grande diversité, et tout à fait en haut du terrain, on va juste y jeter un coup d'œil, j'ai installé ce que j'appelle le radeau des champs.
Ah, parce qu'on connaissait le radeau des cimes.
Oui.
Et vous avez fait le radeau des champs.
J'ai fait le radeau des champs, qui est une petite plateforme sur laquelle on peut s'installer avec des jumelles à focale courte.
Mais donc c'est un lieu d'observation.
C'est un lieu d'observation, mais aussi je viens y dormir de temps en temps. Ouais. C'est-à-dire que j'y installe un matelas et je dors
et
à la belle étoile.
Oui.
Thank you.
voilà votre ado. Ah bah vous pouvez remercier la SNCF, on dit c'est des traverses de chemin de fer.
Oui, ce sont des grosses traverses mais neuves. Et je les ai mises pratiquement jointivement sur une assez grande surface et sur du ballast, comme d'ailleurs les...
Ah oui, okay.
Sur les voies ferrées.
Ah, bien, bien,
et
bien.
De là, comme le champ est légèrement incliné, on a une vue générale jusqu'à la lisière boisée, derrière laquelle se trouve la vallée avec la rivière.
C'est pas fini, hein. On va quitter le chemin, mais on va marcher sur la route avec le forestier et on retrouve Gilles Clément.
Moi, je fais écouter CO2 de mon amour à mes poules, à mes lapins et aux arbres de mon jardin. Et parfois même à mes voisins. Jusqu'à présent, ça les a pas rendus malades.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, n'oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes. Cette fois ma langue dans sa bouche et j'ai dit, je fais que passer.
J'espère que vous allez bien en cet après-midi d'été, ça devrait aller pas mal, c'est au de mon amour, vous êtes sur France Inter, nous sommes chez Gilles Clément, dans le département de la Creuse, avec cette rivière d'ailleurs effectivement qui coule presque toujours au fond d'un ravin, donc ce qui justifie son nom. Pas très loin, vous avez Crozan, donc si vous aimez la peinture, bah, vous connaissez. On pouvait rencontrer Monet, Rousseau, Guillemin, des types qui ont plutôt pas trop mal réussi, et qui venaient là en fait pour trouver les couleurs mauves et les couleurs rousses des Landes. Alors aujourd'hui, bah, il ne verrait plus grand-chose parce que c'est recouvert par des bois et des forêts. Et on poursuit donc cette balade avec Gilles Clément, et on va justement se rendre tranquillement au bord de la Creuse avec lui, dans la vallée, chez Gilles Clément. Alors on va quitter ce radeau des champs.
Allons voir les papillons.
Allons voir les papillons. Alors là ici il n'y aura pas le papillon dont j'ai oublié le nom mais qui porte le vôtre parce que je sais que vous avez découvert un papillon, c'est du côté du Cameroun.
Oui, c'est du côté du Cameroun, falaise de la Dama Ouast. C'est un papillon qui vole la nuit. Et celui-ci, le musée, oh là les là gens là du muséum à qui je donnais ces insectes ont voulu leur donner mon nom. J'ai donné 8 exemplaires à l'époque. Alors vous voyez sur ce bulier, on voit ici une écaille. Alors l'écaille, elle est en haut, c'est ce qu'on appelle l'écaille chinée. Elle est un petit peu plus haut. On va essayer de la faire s'envoler. Peut-être en battant des... Parce qu'en battant des mains, les écailles s'envolent parfois.
D'accord.
Non, celle-ci ne veut pas partir.
Tant pis. Hein. Bon, ce qui veut dire que l'on peut quand même reconquérir, on va dire, des territoires pour que la diversité puisse s'installer. C'est un peu ça aussi l'idée.
Oui, 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 ça peut se faire et il n'y a rien de complètement irréversible, sauf dans les grandes cultures agricoles aujourd'hui en Europe, on ne pourrait pas faire revenir une diversité ici. J'ai le bénéfice d'avoir une continuité biologique grâce à la vallée de la Creuse qui est sauvage,
ouais,
et à beaucoup de lieux qui sont délaissés, il y a une déprise agricole réelle. C'est quand même là que se réfugie cette diversité qui partout ailleurs en est chassée. C'est ce que j'appelle le tiers-paysage.
Là, on pourrait nourrir le sol, enfin en tout cas l'entretenir avec plus de méthodes naturelles quoi, qu'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait, ça dépend ce qu'on veut obtenir du sol, oui, évidemment.
Alors, si on veut obtenir du rendement, parce que souvent c'est quand même ça,
oui, oui,
qui est derrière, est-ce qu'on pourrait faire autrement que d'utiliser quand même à la fois engrais d'un côté, pesticides de l'autre?
L'engrais est toujours une chose imaginable. Les pesticides sont dramatiques. Hein. C'est ce qui détruit l'environnement parce que ça atteint la chaîne écologique en profondeur. Alors on va passer par ici pour aller voir le lac et descendre à la rivière qui, à cet endroit-là, à cause de la retenue, est devenu un lac.
Et donc c'est là que le petit Gilles Clément s'est baigné.
Oui.
Il était tout minot.
Oui, oui, depuis toujours. Alors là, on traverse une sorte de lande climatique qui s'est boisée lentement avec des chênes.
Ouais.
Mais il y a très peu de chênes parce que ils sont maigres et ils ont tous 50, 60 ans, quelquefois 100, alors qu'ils sont minuscules parce qu'ils n'arrivent pas à pousser vu qu'on est sur du granit.
Ouais. Descente en serpentin à travers les bruyères et le sol granitique recouvert d'un peu de mousse sèche. Ah, un banc. Oh oui, ah oh, bah d'accord. Et puis c'est évidemment qu'il n'est pas posé au hasard. Et là, on s'est assis sur le banc que vous avez installé face à ce lac, hein, des méandres donc de la Creuse. Et là, on n'a plus envie de... Alors là, on ne fait plus rien, là, Gilles. Je ne vois pas comment... Si vous pouvez bosser ici, vous m'expliquez, parce que c'est pas possible, ça.
C'est un endroit où on peut venir ne rien faire, ce qui est peut-être une des meilleures manières de travailler.
Oui. Ouais.
Parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas de dégâts.
Ouais.
En tout cas, c'est un lieu de, oui, d'équilibre.
Où les idées poussent, en fait. Ils poussent des feuilles, ils poussent des glands, mais ils poussent aussi des idées ici.
Oui, voilà. Peut-être, oui, c'est ça, c'est un... en effet.
Laisser donc votre... Ah oui, là il y a presque un embarcadère en bas.
Il y a la barque.
Il y a la barque.
Ah ouais. Une barque en bois.
Ah, là on sera quelques instants parce qu'on est face à un bloc de granit qui a été taillé, qui est octogonal.
Alors oui, ça c'est ce qu'on appelle une pile dans la région. C'est vraiment typique de cette région de Creuse et Haute-Vienne, surtout la Vienne. Alors il y a de l'eau à l'intérieur parce que la pile est devenue un peu étanche. Et il s'agit d'une urne funéraire qui est gallo-romaine, qui est une pièce ancienne. Et il y en a beaucoup, mais dans la région, bon, seulement ici, en Haute-Vienne, comme je disais. Cette pièce-là, elle était recouverte d'une sorte de chapeau qui est très rare à trouver, qui a disparu. Et on l'appelle pile parce que ça a été profané. Il y avait des cendres hein, ici au milieu. Ça a été profané progressivement. Dire aussi les Creusois sont des mécréants hein, traditionnellement, hein. C'est pas une histoire nouvelle ça, et c'est devenu des piles, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on pilait le grain, les noisettes, les noix, etc. Voilà,
c'est très bien. Sur fond de cendres d'ancêtres quoi.
Oui, sur fond de cendres d'ancêtres, tout se recycle, hein.
Bah oui, c'est ça.
Pourquoi pas.
Pour revenir sur ce climat d'aujourd'hui et de demain, et donc ce grand défi quand même du 21e siècle, parce que c'est celui-là, changement de comportement, Et là, c'est plus dur parce qu'on voit bien que c'est très compliqué pour beaucoup d'entre nous. Hein. Moi, je m'inclus dedans sans aucune difficulté, mais pour essayer de changer aussi un certain nombre d'habitudes. Quoi. Et pourtant, il va falloir changer. Quoi.
Il va falloir changer. Bon, ce ne sont pas du tout des habitudes difficiles à prendre. Non. Je dirais même que ça nous amène à une économie de gestes qui peut être au lieu de s'agiter bêtement à faire des choses qui sont très très compliquées pour le jardinage, on va être obligé de diminuer peut-être ce genre d'activité-là. Aujourd'hui, ce qui serait vraiment intelligent, c'est d'exploiter la technologie la plus poussée. Oui. Aujourd'hui, quand on imagine que dans une maison comme celle-ci, où il n'y a pas d'électricité, on peut communiquer à l'autre bout du monde par Internet, c'est fabuleux, parce que j'ai le fil du téléphone et que ça suffit. Oui. Bon, ben ça, c'est magnifique. Il n'y a pas d'énergie dépensée, là, ou presque pas. La merveille, c'est l'évolution, justement, dans les capacités à économiser, à vivre plus confortablement en exploitant les technologies modernes, qui, chez nous, en France, ne sont pas exploitées. Quand on pense au salaire, par exemple, on n'en est pas au balbutiement, on en est à zéro, quoi. C'est vraiment lamentable. Donc, il faut beaucoup d'énergie, de constance pour essayer de trouver des moyens, des matériaux, des gens compétents pour vous expliquer comment faire, simplement pour avoir trois panneaux solaires, vous voyez, oui. Mais pour les faire marcher, surtout. Pour les faire marcher de façon efficace, c'est-à-dire pour ne pas être déçu. Il faut, pour ça, savoir exactement comment ça marche. Personne ne vous l'explique. Et donc, il y a des échecs. Ces échecs sont dramatiques parce que ça fait des mauvais exemples et tout à coup on vous dit « Ah ben oui, vous voyez, ça ne marche pas ». Ce n'est pas vrai, ça marche. Il suffit de le savoir.
Luc Clément, comment réconcilier, je dirais, l'homme et la nature aujourd'hui, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit dans ce siècle naissant.
Vraiment, en apprenant à la connaître. Vous voyez, quand on ne sait pas ce que c'est, on a peur. Et alors on tue. Mais quand on sait, on apprend petit à petit à se familiariser avec un serpent, avec une araignée, avec des animaux dont on pourrait avoir peur sinon. Mais si on sait comment ça fonctionne, la plupart du temps, l'ombre, la nuit, ces choses-là accueillent aussi toute une faune et une flore. C'est important dans notre écosystème. Il suffit juste de rentrer dans la connaissance de ces êtres.
Bon, bah écoutez Gilles, on va vous quitter tranquillement, vous laisser à votre maison, vous laisser à vos petits travaux de bassin, d'escalier. Et puis bah, très très bientôt, bah, merci à vous.
Merci Denis d'être venu voir ce jardin un peu desséché, mais où il y a quand même quelques papillons là, qui continuent de voler sur le vitex. Ouais. C'est bien.
Ça, vous imaginez bien, quand on va chez Gilles Clément, on ne se force pas vraiment, c'est un vrai plaisir. Je vous parlais effectivement d'envie dans mon papier d'introduction. Ben voilà, c'est aussi quelqu'un qui donne envie. Un ouvrage, vous en avez dit quelques mots chez Bayard, donc sur les nuages. Ça, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur un sujet météo. Et puis vient de sortir, mais vraiment il y a deux jours, un ouvrage chez Aubanel qui s'appelle « Une écologie humaniste », donc de Gilles Clément et de Louisa Jones. Donc on peut voir à la fois évidemment ces réalisations qu'il raconte, c'est-à-dire aussi bien le parc André Citroën, le parc Henri Matisse à Lille, le Quai Branly, donc récemment, le Jardin du Rayol, etc. Donc toutes ces créations à la fois en France et puis dans le monde. Et puis donc ça prône, comme son titre l'indique, une écologie humaniste, c'est-à-dire que ça nous interroge sur notre place à nous, êtres humains, dans des écosystèmes que l'on sait en constante évolution. Et donc ça nous aide à percevoir différemment nos rapports avec la nature et ça ne peut pas nous faire de mal. D'autres rapports avec la nature et l'environnement, oui. Eh bien c'est dans quelques instants, elle se prépare, c'est formidable. C'est Nathalie Fontrelle qui va nous rejoindre pour l'actualité. I don't care what you do, I don't care what you say, I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work. Well, you take my money and you turn me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving.
drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore.
À nous, c'était Monsieur Bob Dylan, Someday Baby, donc extrait de son nouvel album. Une qui est en pleine forme, qui est reposée, performante, pimpante, le sourire aux lèvres et la métaphore écologique alerte, c'est Nathalie Fontrelle. Bonjour Nathalie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Ça vous va comme lancement,
c'est bien. Oui, c'est formidable.
C'est formidable. Donc nous allons parler de notre actualité, de l'environnement, régulièrement dans cette émission, vous le savez. S'intéresser aux déchets, parce qu'on croyait que les Français étaient devenus propres. Ça veut dire qu'ils ne jetaient plus de déchets dans la nature. Alors ils se sont dénoncés cet été, dans une enquête réalisée par TNS Fraisse pour éco-emballage.
Et 35% des personnes interrogées disent « Oui, je jette parce qu'après tout, les autres le font aussi. » D'accord. En fait, ils suivent le mauvais exemple.
Pourtant, les Français trouvent inadmissible de jeter des déchets dans la nature. C'est une honte.
Oui, à 85%, ils disent ça. Et ils ne sont que 2%. Figurez-vous, à avouer qu'il leur arrive quelquefois de jeter des détritus par terre. Mais d'après ce sondage, les Français ont des solutions. Et notamment une, à 65%, ils estiment qu'il faut éduquer les enfants.
Surtout pas eux.
pour leur enfants. Apprendre le respect de l'environnement.
Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ils estiment que pour eux, pour les adultes, c'est trop tard, c'est ça?
Espérons que non, d'autant que nos poubelles continuent de déborder.
Et que les solutions d'élimination ne sont pas anodines. Nous allons poursuivre dans le sujet une espèce de rupture dans la continuité, si vous voyez ce que je veux dire. Non, 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 je dis non à l'incinération. Pour la dioxine, je n'ai pas d'estime.
Oui, Denis, c'était pas tout à fait ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ont voulu souligner les militants anti-incinération cette semaine. C'était mercredi dernier, pour la journée mondiale contre les incinérateurs d'ordures ménagères. Alors, c'est la cinquième du genre, à l'initiative du réseau Gaïa, qui milite pour la réduction des déchets à la source. Mercredi, les écologistes français étaient devant le ministère de l'écologie,
oui,
à Paris.
C'était quoi? C'était la foule des grands jours, comme pour le CPE?
Je vous le dis.
Bah oui.
25, ils étaient.
Bon, c'est pas mal.
Oui. Bon, enfin, pourquoi cette journée? Écoutez, Florence Courreau du Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets.
L'objectif, c'est de montrer que c'est pas un petit combat personnel, que c'est pas le syndrome « je veux pas à côté de chez moi », que ça concerne des populations à travers le monde entier, que cette opposition est donc légitime et bien fondée. Par exemple, cette année, il y a 75 organisations qui participent, rassemblant une trentaine de pays. En France, dans la gestion des ordures ménagères, l'incinération représente environ 40%. Donc c'est une part relativement importante quand on sait que le recyclage, ça ne concerne que 12% des ordures ménagères. Donc nos demandes aujourd'hui, c'est de demander au ministère de l'Environnement d'arrêter de soutenir cette technologie à travers un projet de révision de directive européenne et à travers les projets qui sont actuellement en cours en France, comme c'est le cas par exemple à Fos-sur-Mer, où à travers ses préfets, le gouvernement a vraiment une position très fortement pro-incinération.
Oui, c'est vrai que les chiffres sont clairs, hein. 40% incinération. production, 40% donc centre d'enfouissement technique, autrement dit les décharges, et puis bah, le reste à la fois c'est compost et tri, donc c'est pas encore énorme chez nous. Alors ils n'étaient pas nombreux donc à manifester à Paris, Nathalie, mais le ministère de l'écologie a quand même réagi. Hein.
Oui, ça a suffi à agacer Nelly Olin, surtout quand elle a vu que deux anciennes ministres de l'environnement étaient parmi les manifestants, Dominique Voynet et Corinne Lepage. Alors Nelly Olin a rappelé que elle a fermé les incinérateurs hors normes et elle a présenté un plan de réduction des déchets à la source pour passer de 290 kg par personne et par an aujourd'hui à 200 kg en 2015. Vu comme c'est parti,
pas gagné parce que c'est pas gagné. D'autant qu'il y a une augmentation tout à fait constante, on le voit. Mais là, on est tous, une fois de plus, aussi quand même gentiment responsables. Oh, écoutez.
Vous la reconnaissez ?
Ah ben je la connais bien, c'est une dame blanche.
Ou chouette et frais. Ouais. Et vous savez ce qu'elle dit ?
Ah ben elle dit urgent, je cherche clocher, comble ou arbre creux, et j'ai une caution de mes parents.
Oui, parce que chez les effraies aussi, c'est la crise du logement. Parce que, on vous l'écoute, elle est magnifique.
Elle
hein. Parce que nous condamnons les combles, nous fermons les clochers, parce que nous abattons les vieux arbres.
Ouais. D'où cette opération Un clocher, une chouette, lancée par l'ASPAS.
L'Association pour la protection des animaux sauvages. En fait, l'idée, c'est de construire et de poser des nichoirs à chouettes effraies, si possible dans les clochers. Mmh. Bon, évidemment, en allant demander l'autorisation à monsieur le maire et aux prêtres, en les convainquant que l'on peut ouvrir la porte à la dame blanche sans pour autant être squattée par les pigeons.
Alors, ce nichoir, ça peut résoudre la crise du logement ?
Mais écoutez, la preuve, 200 nichoirs ont été posés dans le Haut-Rhin et le nombre de couples est passé de 10 à 130 en 15 ans. Ça vaut le coup ?
Si on est intéressé par l'opération, qu'est-ce qu'on fait ?
Rendez-vous sur aspas-nature.org.
Voilà, et sur le feu. Sur le site de CO2, mon amour. Et je vous dis, le feu, pourquoi ? Pour ça, voilà, on l'entend ce feu, hein, c'est formidable. La douceur, on en avait besoin au mois d'août, hein ?
Ah oui, au mois d'août,
Bah oui, voilà. On en parle pourquoi ? Parce que les ventes de poêles à bois, toujours dopées par le crédit d'impôt, où est-ce qu'on en est ? Ça se porte bien ?
Oui, alors ça se porte bien, mais cet été, il y a une petite polémique. La CLCV, une association de défense de consommateurs, a publié une étude assez étrange en disant que les Français ne connaissaient pas le label Flamme Verte. Vous savez que c'est le label de qualité qui garantit un rendement de 65% minimum et surtout qui ouvre le droit au crédit d'impôt. Il est donc important que ce label soit reconnu par le public. Et ce n'est pas le cas, a dit la CLCV, puisque 17% seulement des personnes interrogées connaissent sa signification.
C'est pas beaucoup quand même.
Sauf que renseignement pris, l'étude est tout de même sujette à caution, parce que les personnes interrogées sont des habitants d'Île-de-France, et c'est vrai qu'à Paris, c'est pas vraiment évident de se chauffer au bois, on n'est pas forcément intéressé. Alors, chose intéressante, et on en reparlera, l'ADEME est en train de mener une étude de notoriété sur ce label, c'est vraiment important qu'il se fasse connaître.
Alors, en attendant, les ventes d'appareils de chauffage continuent d'augmenter,
Une bonne nouvelle. Écoutez, Damien Maton, du syndicat des énergies renouvelables.
Pour 2006, bon, on a une tendance sur le premier semestre, évidemment, puisque l'année est en cours. Premier semestre qui n'est pas forcément représentatif de l'année complète, puisque c'est une activité qui est relativement saisonnière, les gens achètent au second semestre. Mais pour indication, le premier semestre est quand même intéressant, puisqu'on voit une croissance sur l'ensemble des familles d'appareils, de l'ordre de plus 30% par rapport au premier semestre 2005. Donc la dynamique continue.
Combien se vendaient-ils d'appareils à bois avant le crédit d'impôt et on en est à combien aujourd'hui ?
Jusque 2004, on était sur environ 300 000 ventes annuelles. En 2005, on est monté à environ 400 000 ventes, tout appareil confondu. C'est à mettre sur le compte, évidemment, de l'incitation fiscale efficace qui a été mise en place par le gouvernement, mais c'est aussi dû à la hausse, évidemment, du prix des énergies fossiles, fuel et gaz.
À compter d'aujourd'hui, il y a une mesure nouvelle qui va encore favoriser plus encore le chauffage au bois.
Oui, tout à fait. Le conduit d'évacuation des fumées est, depuis aujourd'hui, rendu obligatoire lors de la construction d'une maison chauffée à l'électricité, dont le permis de construire est déposé à partir d'aujourd'hui. Quand un client cherche à installer un appareil de chauffage au bois, s'il n'a pas de conduit au préalable, ça peut le rebuter, c'est des travaux. Mais aujourd'hui, d'origine, il y aura ce conduit de fumée dans les maisons chauffées à l'électricité. Donc c'est évidemment un facteur qui va développer encore les ventes de ces matériels.
Alors ça, c'est une petite révolution.
Ah oui, parce que maintenant, on aura le choix.
Voilà, c'est ça. Tandis qu'avant, on était un peu quand même ligoté avec son chauffage électrique. Du bois, nous allons passer à la forêt. C'est donc l'ouverture de la chasse demain dans le sud de la France, en espérant que la cohabitation entre chasseurs et non-chasseurs se fasse sans casse cette année.
Non. Eh bien, écoute.
Non. Donc Xavier Pestou, j'ai dit sans casse, c'est incroyable. Oui, Nathalie, on y va.
Oui, donc... oui, moi je vais mettre mon gilet pare-balles. Bah, hein. Oui. Bon, en tout cas, le bilan de la reproduction, il faut quand même en parler, de la faune sauvage est plutôt bon, oui, d'après le président de la Fédération nationale des chasseurs, Charles-Henri de Pontchalon.
L'année en général est bonne, difficile sur la perdrix grise à cause de la météorologie qui a été mauvaise au printemps et où les petits perdreaux gris en particulier ont souffert d'un manque d'alimentation et manque de protéines, donc difficulté. Le reste, le lièvre, bon, le pigeon, bon, le grand gibier, bon, pour pas dire très bon, l'année devrait être satisfaisante.
Voilà, donc on l'écoute, tout est bon. Hein.
Tout est bon dans le cochon.
Voilà, donc c'était quoi le tableau de chasse de l'an passé, Nathalie ?
500 000 chevreuils, ouais. 420 000 sangliers, 45 000 cerfs.
Et c'est une comptabilité qui est fiable ?
En fait, pas tout à fait du tout. Et c'est pour cette raison que cette année, la Fédération teste un nouvel outil. Ça s'appelle le CPU, oui. Le carnet de prélèvement universel. Mm-hmm. Le chasseur y inscrit le nombre d'animaux tués, surtout bon, les espèces. Oui. Et à la fin de la saison, il renvoie le carnet à sa fédération de chasse. Et le tout sera ensuite centralisé pour obtenir une évaluation plus précise de la pression de chasse sur le milieu naturel.
Voilà, donc c'est ça. Donc il y aura le bon chasseur et le mauvais chasseur, celui qui remplira et celui qui remplira pas.
Oui, voilà. C'est ça, effectivement.
Et là, on aura des chiffres plus précis après ?
Bah, en fait, tout dépend de leur bonne volonté. Hein. Si les chasseurs jouent le jeu, oui, on aura des chiffres plus précis.
Et puis, nouveauté cette année quand même, plus de canards au plomb.
Non, les cartouches au plomb sont en effet interdites dans les zones humides des dizaines d'années après d'autres pays comme les États-Unis et d'autres pays européens. Le plomb est remplacé par des billes d'acier. Mmh. Vous savez que les canards ingurgitent des cailloux pour broyer les aliments dans leur gésier. Et évidemment, ils ingéraient les billes de plomb. Ils sont complètement idiots, ces canards.
Bien, c'est ça.
Le plomb responsable, comme vous le savez, du saturnisme.
Non, donc ils ne mourront plus du saturnisme, mais effectivement, normalement...
De billes en acier, de balles en acier, c'est quand même... Voilà, c'est plus naturel.
Quand on est canard. Merci beaucoup, chère Nathalie Fontrelle. Faites attention en rentrant chez vous, j'ai des pare-balles. Et puis, on se retrouve bientôt.
Hein, à bientôt, bah, bien Denis. Sûr.
Ben oui, on va se retrouver bientôt avec Nathalie, avec des canards, avec... Oh, je ne sais pas, on verra tout ça. Merci à Clotilde Thomas, Cédric Lalanne à la technique, Jean-Baptiste Audibert et Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Alors, vous pouvez vous la réécouter avec le podcast, mais bien sûr, et je crois même pouvoir vous dire qu'on va pouvoir la réécouter pendant 4 semaines. Oui, grâce à nos digiers que l'on remercie. Le répondeur, 01 42 20 40 40. 01 42 20 40 40. Alors, un petit appel parce que le 23 septembre, on va faire une émission sur le climat. Et toutes les questions, vos interrogations, vos doutes sur le climat, n'hésitez pas dès maintenant. On recevra Jean Jouzel, il y aura Jean-Louis Etienne aussi, mais qui sera enregistré, un glaciologue de la NASA. Donc vos questions, c'est plutôt bien si elles arrivent cette semaine. 01 42 20 40 40 sur le répondeur. La semaine prochaine, parce qu'on n'y est pas encore au 23, on retrouvera Jean-Marie Pelt, on parlera du cèdre du Liban et de l'actualité. Une nouvelle séquence qui va s'appeler Ma vie dans mon siècle avec Pierre Radan. Et puis c'est la journée du patrimoine, on va parler de l'eau, on parlera sûrement orties et purin d'ortie. Ouais, il se passe des choses tout à fait intéressantes de ce côté-là. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end.